France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les Tchèques et sans doute d'autres nations dans cette partie de l'Europe sont culturellement habitués à suivre les règles. Nous ne sommes pas forcément très contents des décisions qui sont prises, mais globalement, nous les respectons, nous obéissons.
Moi, j'ai peur d'une chose. On dit toujours que ce sont des mesures temporaires. Malheureusement, après, on voit que certains hommes politiques y prennent goût.
Autant les gens ici ont été très dociles et ont respecté les règles parce qu'ils avaient peur au début. Je pense que si le problème se répète, ils seront peut-être moins dociles.
C'est le retour progressif à la normale en Europe. Près de 176 000 personnes ont succombé au nouveau coronavirus, mais la pandémie semble maintenant sous contrôle et le mouvement de déconfinement s'accélère. En République tchèque, ce mouvement s'était amorcé dès le 9 avril sans affecter la courbe épidémiologique. Et après la réouverture, le 11 mai, des centres commerciaux, des cinémas et des terrasses, c'était au tour cette semaine des restaurants, bars, hôtels, zoos, piscines. Les écoles primaires accueillent à nouveau des élèves sur la base du volontariat. Le port du masque n'est enfin plus obligatoire, sauf dans les magasins et les transports publics. Pays de 10,7 millions d'habitants, la République tchèque a enregistré à ce jour un peu plus de 9000 cas confirmés de contamination, dont seulement 320 décès. Comme les autres pays d'Europe centrale, elle s'en sort bien, bien mieux que la France, l'Italie ou l'Espagne. Il faut dire que les Tchèques ont réagi vite et fort. Le port du masque est devenu obligatoire dès le 19 mars et le pays a rapidement fermé ses frontières. La crise sanitaire offre donc aujourd'hui au chef du gouvernement, Andrej Babiš, jusque-là très critiqué, une nouvelle légitimité. Coronavirus, les Tchèques montrés en exemple, c'est un reportage signé Marie-Pierre Véro. Invité de ce grand reportage, Jacques Rupnik, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste de l'Europe centrale et orientale, vous êtes directeur de recherche au CERI, le Centre de recherches internationales de Sciences Po. Votre dernier livre, L'Europe sans le mur, n'est disponible pour l'instant qu'en italien, mais un livre sur ce thème va paraître en français aux éditions Odile Jacob à l'automne. On va donc patienter un petit peu. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, Jacques Rupnik. Avant, nous allons écouter ensemble le reportage de Marie-Pierre Véro. Marie-Pierre, vous étiez à Prague à la mi-mai, juste après la réouverture des terrasses, musées et cinémas. Vous avez pu vous rendre en République tchèque alors que les frontières sont fermées.
Oui, parce qu'il faut savoir que l'on n'entre pas sans bien préparer son séjour en République tchèque. D'abord, le pays reste hermétiquement fermé aux touristes étrangers. Mais depuis la fin avril, les Européens en voyage d'affaires peuvent venir pour 72 heures maximum avec une invitation officielle et un test Covid négatif vieux de moins de 4 jours. C'est donc toute une expédition, un peu un voyage dans le temps aussi. On avait oublié les frontières au sein de l'Europe, les formalités à la douane, le frisson qui vous parcourt quand le douanier regarde votre passeport et vous scrute, le soulagement quand il vous ouvre le passage. Tout ce qui était simple, anodin, presque imperceptible, est redevenu barrière. Mais nous avons donc pu la franchir, cette barrière, l'espace de 72 heures.
Et l'on vous retrouve avec Nicolas Mathias en plein cœur de la capitale, sur le plus ancien et le plus célèbre pont de Prague.
Bienvenue sur le pont Charles.
On a voulu profiter de l'occasion, il n'y a pas beaucoup de monde et il fait beau, alors on est venu ici se promener.
Tout ce que l'on voit là est magnifique. Mais d'habitude, il y a trop de tout.
En temps normal, il n'y a pas moyen d'avancer, il y a des gens partout.
Vous deviez faire attention à ne pas bousculer quelqu'un ou à ne pas vous faire marcher sur les pieds. C'était devenu impossible d'apprécier toute la beauté qu'il y a ici, surtout quand vous n'êtes pas très grand comme moi.
Normalement, il est impossible de traverser ce pont tranquillement. Il y a une telle foule que tout le monde se bouscule, avec quasiment que des touristes étrangers qui s'arrêtent tous les 2 mètres pour admirer une statue, en toucher une autre, pour faire un vœu, se prendre en photo. On n'avait plus aucun plaisir.
Moi, je me souviens de l'époque, quand j'étais gamin, où les voitures pouvaient encore passer sur le pont.
D'accord, mais c'était un autre temps.
Il faut dire aussi que s'il n'y avait pas les touristes, Prague ne serait pas si bien rénovée. Il ne s'agit pas seulement de l'argent qu'ils dépensent. Il ne faut pas oublier l'état dans lequel les communistes avaient laissé la ville. C'était une honte.
Et cela nous fait plaisir que beaucoup de gens puissent voir tout cela. Avant, sous le régime communiste, les étrangers n'avaient pas trop la possibilité de venir. Personne ne savait à quoi ressemblait la ville ou notre pays. C'est à peine s'ils savaient le situer sur une carte. Aujourd'hui, Tout le monde peut voir toutes les belles choses qui nous entourent.
Ou que l'on pourra de nouveau admirer lorsque les frontières s'effaceront à un horizon encore incertain. Mais dans le pays, de premiers interdits se sont levés. Le confinement s'est allégé. Et en ce dimanche 16 mai, les Tchèques profitent d'une liberté tout juste retrouvée. Enfin retrouvée pour le plus grand plaisir du claveciniste pragois Philippe Dvorak.
Mon histoire avec le coronavirus, c'était vraiment comme ça. Je suis tombé vraiment au début. J'étais vraiment en dépression avec ça. Parce qu'on reste seul. Personne dans les rues. Les gens ne parlaient pas. Entre eux, ils portaient le masque, on dit basque. Ils n'ont pas parlé dans les magasins. Et tout ça, c'était calme. Prague était vidée, comme science fiction. Quelque chose comme ça. C'était absolument bizarre parce que Prague est comme Paris. C'est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes, beaucoup de gens. C'est plein de restaurants, etc. Et du coup, tout était fermé. Et c'était bizarre. J'ai eu de choc un peu, il faut le dire. Alors, on restait à la maison. Déjà, je me souviens déjà des temps de communistes. Alors, c'était un tout petit peu pareil. Mais il faut dire qu'à cause d'une chose différente. Mais on en sentait un peu de peur, déjà.
Est-ce que, justement, ça vous a rappelé le communisme ?
Moi, oui. Moi, un peu, oui.
De quelle manière, alors ?
De cette façon de peur de quelque chose. Parce que 30 ans après la révolution, je n'ai pas connu angoisse. Je ne sentais pas 30 années. Mais maintenant, du coup, ça commençait comme avant la guerre, quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Parce que je me souviens, quand j'étais petit, il fallait sortir des rues quand les militaires passaient le village, les gens se cachaient dans les maisons, et comme ça, il fallait se cacher de nouveau. Alors, on ne pouvait pas sortir comme ça. Je suis ici, je prends un café dans un restaurant. Alors, mes enfants, ils n'ont pas ce souvenir, alors ça va pour les enfants. Mais pour les gens qui se souviennent du temps communiste, c'était un peu plus difficile, je crois. Mais c'était un peu... Et aussi un peu différent parce que nous savons maintenant que ça termine une fois. Quand il y aura la vaccine, bien quelque chose comme ça, je pense que les frontières s'ouvrent dans tout le monde. Pas maintenant, dans une année, peut-être, je ne sais pas. Mais ça termine. Pendant le temps communiste, on ne savait pas si ça va terminer.
Est-ce qu'on peut vous demander de nous jouer quelque chose ?
Oui, un petit morceau. Ah. Quelque chose, je ne sais pas. C'est quelque chose pour moi assez confortable pour le jouer au microphone. et de plus, c'est un morceau que vraiment j'aime beaucoup. C'est...
Une autre époque. Mais cette pandémie en a fait ressurgir le souvenir chez les plus anciens, comme Eva Morelska, qui travaillait naguère en virologie.
Ici, en République tchèque, tous les ans, nous faisons face à une épidémie de grippe, sans doute comme partout ailleurs, en hiver. Et je me souviens de l'époque où j'étais étudiante au lycée. Mon père était docteur. C'était juste après le putsch communiste. Donc, à cette époque, mon père a écrit une lettre à ma sœur, qui était ma sœur aînée, qui étudiait en France. Il lui a donc écrit pour lui parler de la situation. Et il lui a dit, l'épidémie est terrible, j'ai tous les ans 120 patients atteints de grippe qui viennent me consulter. Mon père a donc emmené cette lettre à la poste. Le lendemain, il a reçu la visite d'un policier qui tenait la lettre dans la main. Le policier, donc, c'était avant l'arrivée des communistes, c'était un policier normal. Il lui a dit, écoutez, cette lettre, elle risque de ne pas arriver en France. La prochaine fois, si vous écrivez en France, évitez de parler d'épidémie de grippe. Ça pourrait être mal interprété, ça pourrait être vu comme une critique.
Vous avez repensé à cette histoire, du coup, récemment.
Oui, cette épidémie m'a remis en mémoire ce souvenir d'une autre épidémie.
Quel regard vous portez, vous qui avez travaillé sur les virus, sur cette pandémie aujourd'hui ?
No, tak myslím si, že se bude asi vracet, jak říkají odborníci.
Je pense qu'il va falloir compter avec un éventuel retour du virus, avec un problème récurrent. Ce qui m'inquiète, c'est que les gens ont tendance à donner la priorité à la liberté sur la sécurité. Et autant les gens ici ont été très dociles et ont respecté les règles parce qu'ils avaient peur au début, je pense que si le problème se répète, ils seront peut-être moins dociles.
On a le sentiment, vu d'Europe de l'Ouest, que les pays d'Europe centrale, la Tchéquie notamment, mais aussi ses voisins, peut-être la Slovaquie, ont mieux géré cet événement que les pays d'Europe de l'Ouest ou du Sud. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela et pour quelles raisons, selon vous ?
No, myslím si opravdu, že nám se tohle to podařilo.
Oui, je pense que notre pays a su mieux gérer la situation, même si en Europe de l'Ouest, on a tendance à nous présenter comme un pays d'Europe de l'Est. Je pense que c'est pas le cas, que nos services de santé et nos services d'épidémiologie ont toujours été de très bonne qualité et c'est ça qui a joué.
Des services en pointe, en effet. C'est en fait tout un ensemble de causes qui peut expliquer cette réussite tchèque. Au départ, sans doute un facteur chance. Le pays a été atteint plus tard que ceux de l'ouest ou du sud du continent. Prague a regardé avec effroi vers Rome et en a tiré des conclusions immédiates. Avant même d'enregistrer une première victime du Covid, le gouvernement a fermé ses frontières, imposé des mesures très strictes de confinement à sa population, rendu le port du masque obligatoire. De bonnes décisions au bon moment, saluent les épidémiologistes. Mais ce n'est pas tout. La Tchéquie est également, comme ses voisins, sans doute moins globalisée, donc moins au cœur des échanges mondiaux qui ont contribué à la propagation du virus. Mais la population aussi a été à la hauteur. Elle s'est d'emblée pliée aux restrictions, comme le rappelle le biochimiste Jan Konvalinka, également vice-recteur de la prestigieuse Université Charles.
Les Tchèques et sans doute d'autres nations dans cette partie de l'Europe sont culturellement habitués à suivre les règles. C'est peut-être aussi le cas des Allemands et des Autrichiens. Donc nous ne sommes pas forcément très contents des décisions qui sont prises, mais globalement nous les respectons, nous obéissons. Un autre facteur, et c'est très positif, c'est que de nombreuses initiatives privées ont vu le jour pour lutter contre le virus. Vous voyez ces masques ? Eh bien, tout le monde s'est mis à en fabriquer. Celui-là, c'est ma femme qui l'a cousu. Des millions de gens ici portent des masques faits maison. Je connais aussi des chefs d'entreprise, de petites entreprises, qui se sont mis à faire des masques pour leurs employés, puis en ont distribué aux maisons de retraite, aux hôpitaux, aux médecins et infirmières. En fait, au moment où le gouvernement était totalement incapable de réagir rapidement, il y a eu de nombreuses initiatives de la part de la population, et ça a grandement aidé à contenir la pandémie.
Et pensez-vous que c'est en raison de l'histoire que les Tchèques comptent davantage sur eux-mêmes que sur le gouvernement ?
Oui, j'en suis convaincu. C'est assez étrange ici. D'un côté, les gens sont donc habitués à obéir aux règles, mais dans le même temps, ils ne font pas confiance aux autorités. Ils savent qu'au bout du compte, ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Il y a donc eu de nombreuses initiatives privées. Les masques en sont une. Les tests Covid en sont une autre. Nous nous sommes rendus compte que nos capacités étaient insuffisantes. Nous ne pouvions en réaliser que quelques centaines par jour. Ce qui est clairement insuffisant. Alors, plutôt que d'attendre que le gouvernement s'en occupe, eh bien, les universités et les instituts de recherche fondamentale ont commencé à s'organiser. Je suis moi-même à l'origine de la mobilisation de plus de 250 chercheurs de différents instituts et laboratoires qui travaillaient en biologie moléculaire et en virologie. Ce sont deux branches traditionnellement très fortes dans ce pays. Eh bien, ils ont interrompu les recherches en cours pour se focaliser sur le virus, sur les moyens de le détecter. Mais ce n'est pas tout. Nous avons été confrontés, et je crois que c'est la même chose en France ou en Allemagne, à une pénurie de réactifs. C'est pourquoi il a été si difficile de se procurer suffisamment de kits de détection. Et c'est d'ailleurs toujours un problème. Eh bien, face à cette pénurie, nous avons élaboré nos propres kits, nos propres tests de détection avec nos propres réactifs pour isoler l'ARN. Nous l'avons fait dans mon département, par exemple, et nous pouvons aujourd'hui fournir nos propres réactifs aux hôpitaux et laboratoires de tout le pays. Donc, vous voyez, ce sont des efforts faits maison et de manière étonnante, ça marche bien.
Yann Kolvalinka est intarissable. Il évoque aussi la mobilisation des instituts plus techniques qui ont trouvé une solution 100% tchèque pour fabriquer des respirateurs pour les hôpitaux ou produire des masques FFP3 avec des nanomatériaux d'origine tchèque. Et il tient à insister.
Tout cela, il faut le rappeler, n'a pas été organisé d'en haut. Ce sont les gens qui s'y sont mis eux-mêmes. Et maintenant, c'est très utile au gouvernement. Mais il faut bien comprendre qu'au départ, ce sont des volontaires qui ont décidé d'aider bénévolement leur pays alors qu'il était dans une situation critique.
Chacun s'est réinventé, les artistes également. Nous poussons la porte du Théâtre National qui a mis l'une de ses salles de répétition à la disposition d'Igor Orozovitch, l'un de ses acteurs. Il a réuni quelques amis musiciens avec lesquels il a créé un groupe Cabaret Calembour. Et c'est désormais sur YouTube et les réseaux sociaux que le groupe se produit. Une découverte pour Igor qui a expérimenté de nouvelles voix quand la scène nationale a soudainement baissé le rideau.
C'est arrivé une semaine avant le début des répétitions pour l'idiot de Dostoïevski. Nous nous préparions, je lisais beaucoup de livres et c'était un peu comme « voilà, on y est ». Et puis tout s'est arrêté. Mais j'ai commencé à faire pas mal de choses. J'ai écrit des chansons que j'ai mises en ligne. Le Théâtre National nous a aussi demandé de faire des choses pour les gens, pour les diffuser sur les chaînes YouTube et sur Facebook. J'ai eu l'idée d'écrire des poèmes et avec quelques collègues, nous les avons lus pour les réseaux sociaux. Il y a aussi un grand projet. J'ai réalisé une petite série. Horreur. C'est un ouvrage de plusieurs auteurs tchèques qui ont écrit 100 histoires d'horreur en 100 mots. Ce sont de petits sketchs. J'ai fait des vidéos à la maison, j'ai tout recréé, la musique et l'atmosphère, et c'était très amusant. Et puis le Théâtre National a eu un geste très important. Je pense que de nombreux artistes dans le monde du théâtre ont réalisé que, jusqu'à présent, ils étaient séparés. Vous savez, chacun travaillait dans son coin. C'était souvent une compétition plus qu'une coopération. Nous, les acteurs, ça peut aller car nous sommes une troupe, mais le Théâtre National a fait cette belle chose. Ils ont initié une grande discussion entre tous les théâtres du pays. Et ils se sont demandé comment ils pouvaient aider les autres salles. Parce que nous, ça va, nous avons de l'argent, mais il y a vraiment des centaines de théâtres qui ont de gros problèmes. Donc il y a eu ces échanges sur Internet. Et j'espère qu'il y aura de nouvelles initiatives pour coopérer, pour penser la dramaturgie, l'argent, la communication avec les gens, avec le public, pas pour se battre, mais vraiment pour coopérer. Et si vous voulez savoir ce que cette tragédie, ce que cette pandémie a changé, eh bien, c'est que le Théâtre National et d'autres scènes ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls, mais qu'ils formaient un groupe d'artistes. Nous sommes connectés et on peut le voir maintenant. Et ça, c'est très fort pour moi et très important. Parce que parfois, certains directeurs de théâtre, pas juste au Théâtre National, mais ici aussi, sont un peu trop fiers et s'affrontent les uns les autres. Et c'est cela qui pourrait être en train de changer.
Chaque matin, je me réveille, il y a du ciel sombre. Je regarde les toits humides.
Allez, tak, no, ja już to stopię. Ale ja sobie takie nazwę. Jeszcze. Ja pytam mam.
Il faut changer de modèle. Les Tchèques en sont conscients. De la scène artistique jusqu'aux secteurs économiques, chacun y réfléchit. Dans le tourisme notamment. Comment Prague, qui en est tellement dépendante de ses touristes aujourd'hui interdits d'entrer, va-t-elle relever le défi ? Nous retrouvons dans la vieille ville Barbora Chuba, qui représente l'agence chargée de la promotion de la capitale.
Comme vous le voyez, nous sommes ici au l'hôtel de ville, donc sur la place de la vieille ville. Habituellement, il y a de très longues queues, une foule très importante, surtout comme ça l'après-midi quand il fait beau. Et actuellement, c'est désert malgré la réouverture.
Depuis que vous avez rouvert donc le 11 mai, ça fait une semaine. Hein, oui, en une semaine, vous avez l'équivalent de combien de visiteurs?
C'est assez simple. Le premier jour, donc le 11 pour la réouverture, il y avait eu 12 visiteurs, 28 le deuxième jour, alors qu'habituellement c'est au moins 3000 personnes.
Est-ce que vous pensez que les frontières vont pouvoir bientôt rouvrir, que ça va redevenir comme avant, ou qu'il va falloir peut-être se réinventer dans le tourisme aussi ?
Il faudra bien entendu longtemps pour revenir éventuellement aux chiffres d'avant la crise, mais de toute façon, ce n'est pas notre objectif, parce que Prague avait même dépassé ses limites d'accueil, il y avait trop de monde. Alors, bien sûr, ils souhaitent le retour des touristes, parce que Prague, pour des raisons économiques, est très dépendante de cette activité. L'ouverture des frontières, bien sûr, c'est une chose, mais il y a aussi l'ouverture des frontières dans les autres pays, pas seulement en Europe, et le fait aussi que les gens n'auront pas forcément envie de voyager. On peut supposer qu'il y aura aussi une peur des gens. Donc, au moins jusqu'à l'automne prochain, l'objectif est de porter une plus grande attention à la clientèle locale.
Est-ce que vous imaginez déjà une autre façon de vendre Prague, de faire du tourisme?
Pour l'instant, avec la ville, ils sont en train de préparer une campagne de façon à pouvoir permettre aux gens à offrir l'entrée dans les musées, dans les galeries, mais la gratuité dépendrait du fait qu'ils passent au moins une nuit dans un hôtel ou dans un Japon.
Loger à Prague, dépenser à Prague, l'hôtellerie, la restauration ont beaucoup souffert. En cette mi-mai, bars et restaurants viennent à peine d'être autorisés à rouvrir leurs terrasses, mais pas plus. Et bien sûr, on est loin du retour à la normale. Par exemple, dans ce petit établissement qui nous ouvre les portes.
Je m'appelle David Hayek, je suis le propriétaire de ce petit restaurant, bistrot. Qui se trouve à quelques pas du Pont Charles. C'est un établissement que nous avons ouvert il y a 3 ans avec un copain du lycée. Quand nous avons ouvert notre établissement, l'idée c'était quand même que les Tchèques puissent venir, d'attirer une clientèle tchèque. Mais compte tenu de notre situation à quelques pas du Pont Charles, les touristes représentent une part importante de notre chiffre d'affaires. En temps normal, le midi, c'est plus de 50%. Le soir, les Tchèques sont un peu plus nombreux. Donc forcément, les pertes sont très importantes parce que le nombre de nos clients actuellement est limité à quelques personnes.
Est-ce que les clients étaient au rendez-vous quand vous avez rouvert les terrasses ?
Le premier jour, il y a eu effectivement beaucoup de monde. Il y a des clients habituels qui sont venus nous exprimer, manifester leur soutien. C'était très bien. Ceci dit, nous manque 40 à 50% de notre chiffre d'affaires. Même si notre objectif n'est pas que de faire des affaires, nous sommes une petite structure. On n'est pas là pour. On ne fait pas ça pour pouvoir s'acheter une Porsche. Notre idée, c'est vraiment de participer à la vie de la communauté. Parfois, on organise par exemple des distributions de légumes bio, on organise différentes manifestations. Mais on n'a pas des revenus, même en temps normal, extraordinaires. Donc, cette perte de la clientèle étrangère est forcément néfaste et nous fait mal.
Vous pensez que ça va durer longtemps, que ça peut s'installer dans la durée, ce type de précautions nécessaires ?
C'est
difficile à dire. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler. Ce qui est sûr, c'est que au rythme où vont les choses maintenant, avec la réouverture qui va très vite, il y a un risque de deuxième vague. Et si effectivement il devait avoir cette deuxième vague, ce serait catastrophique pour nous.
C'est justement pour éviter un confinement aussi drastique, une mise à l'arrêt de sa ville, que le maire adjoint du 9e arrondissement de Prague, Tomáš Portlík, promeut une politique massive de tests.
Je pense que le principal problème de cette crise du coronavirus, c'est que personne n'a pour l'instant de vaccin, il n'y a pas de médicaments disponibles et on parle beaucoup d'une éventuelle ou probable deuxième vague. On ne sait pas quand, mais donc cette deuxième vague pourrait arriver. Et donc la seule solution, à mes yeux, c'est la prévention. Et donc, comme il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont porteurs de la maladie et que ce sont ces gens-là qui transmettent le virus, l'idée serait de pouvoir mettre à leur disposition des tests, des endroits où ils peuvent se rendre pour passer le test. Donc ça concernerait aussi bien les institutions, les entreprises, dès qu'il y a un cas suspect, de pouvoir contrôler. Vérifier si la personne est bien malade. Le problème, c'est quand même l'accessibilité de ces tests. Je pense que porter les masques, tout ce qui est désinfectant, c'est très bien et je pense qu'il faut garder ces mesures en vigueur. Mais pour la prévention, il faudra des tests. Ça permettrait de cibler les groupes de personnes qu'il faudrait confiner et pour ne pas avoir tout fermé le reste.
C'est ça, l'objectif est d'éviter un confinement aussi massif que celui auquel vous avez dû recourir.
Quand on prend toutes les mesures qui sont nécessaires, rien qu'à Prague, pour le fonctionnement des théâtres, des institutions et ainsi de suite, ça coûte très cher, 20 milliards de couronnes par mois. À titre de comparaison, le budget de la ville de Prague est de 70 milliards de couronnes par an. Donc c'est pas possible. Alors les tests justement permettraient de vivre et de continuer à fonctionner. L'économie pourrait continuer à tourner malgré la présence du coronavirus.
L'objectif c'est bien d'éviter de nouveau une mise à l'arrêt finalement du pays.
L'idée c'est d'apprendre à vivre avec.
Dans son arrondissement déjà, une équipe installée sur le parking de la polyclinique est à pied d'œuvre.
Bonjour, je m'appelle Denisa Švecová, je travaille ici pour l'entreprise GAC Genetics.
A již přes měsíc zde vyšetřujeme SARS-CoV-19.
Et depuis un mois, nous faisons des tests pour le COVID-19.
Comment est-ce que ça se passe concrètement? On peut venir sans prendre rendez-vous ou est-ce qu'il faut prendre rendez-vous et comment se déroule le test? Vous pouvez nous décrire?
Takže náš stan je otevřen 4 dny.
Nous sommes ouverts 4 jours par semaine. Le mardi, nous ne prenons les gens que sur rendez-vous. Ça veut dire que concrètement, les gens appellent en avance et conviennent d'une heure de rendez-vous. Les autres jours, lundi, mercredi et jeudi, les gens peuvent venir sans rendez-vous.
Máme teda dva druhy testů. Ten první je metoda PCR.
Nous utilisons des tests qui sont à 80% fiables. Nous avons deux sortes de tests. Un test rapide qui se fait sur prise de quelques gouttes de sang. Les résultats s'affiche très rapidement et puis un autre test pour lequel il faut attendre 24 heures pour obtenir les résultats. Et en général, la plupart des patients demandent à ce que les résultats leur soient envoyés par mail sous forme écrite.
Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui viennent, qui sont désireux de se faire tester?
Ah non.
Oui, nous avons beaucoup de visiteurs, en moyenne 60 à 70 personnes chaque jour. N'importe qui de toute la République tchèque peut venir se faire tester.
Est-ce que ces tests sont payants ?
Si les gens viennent avec un papier de leur médecin, le test n'est pas payant pour eux, c'est pris en charge par l'assurance maladie. Par contre, s'il s'agit d'une démarche personnelle, aussi bien de gens qui ont par exemple besoin d'un papier pour pouvoir aller à l'étranger ou pour pouvoir rendre visite à quelqu'un de la famille, dans ce cas-là, les gens doivent payer eux-mêmes leur test.
Rapid test stojí 700 korun a PCR test stojí 1700 korun.
Le test rapide coûte 700 couronnes, l'autre test 1700.
Donc entre 40 et 60 euros. Les tests sont en effet parfois requis pour traverser les frontières, mais pas toutes. En cette mi-mai, celle avec la Slovaquie reste hermétique. Bratislava a pris des mesures drastiques. Ce qui a surpris Jakob et Samuel, ils ont fondé une association qui réunit les Slovaques de Prague.
Nous étions un seul pays avec la République tchèque. Nous nous sommes séparés qu'il y a 25 ans et il n'y a jamais eu de contrôle strict à proprement parler entre nous. Durant la période communiste, il n'y avait qu'une frontière administrative et vous pouviez passer. Et même après la séparation de la Tchécoslovaquie, il n'y a pas eu de contrôle aux frontières. Pas de contrôle de passeport. Il y avait bien une frontière, mais une totale liberté de mouvement, un peu comme dans l'espace Schengen. Donc cette fermeture est venue comme une vraie surprise. Et c'est un réel problème pour les Slovaques qui habitent ici. Et surtout, ce qui nous préoccupe, c'est le discours du gouvernement, sa communication sur les restrictions imposées par le coronavirus. Quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il lutte davantage contre les gens venus de l'étranger que contre le virus.
Notre nouveau Premier ministre a commencé à prendre pour cible des groupes, disons, étrangers à une partie de la société. D'abord, ce furent les Roms rentrés du Royaume-Uni qui ont été montrés du doigt et accusés d'avoir apporté le virus. Après, ce sont les médias accusés d'être anti-gouvernementaux et de propager des fake news. Puis, ce furent les Slovaques qui habitent, travaillent ou étudient à l'étranger et reviennent dans le pays pour travailler. En fait, ce gouvernement divise la population en deux groupes, ceux qui sont dans le pays et ceux qui vivent à l'étranger et veulent y revenir. Et de fait, il est interdit aujourd'hui d'entrer en Slovaquie et cet interdit ne repose sur aucune base légale.
En Slovaquie, il n'y a pas légal way how. Il n'y a aucun moyen d'entrer en Slovaquie, même si l'on a un test négatif ou une quelconque invitation. Ici, en Tchéquie, il y a peut-être des obstacles bureaucratiques, mais vous pouvez venir. En Slovaquie, soit ils vous refusent l'entrée, soit ils vous envoient en quarantaine forcée, une quarantaine dont le gouvernement n'a jamais fourni la base légale. En fait, le discours que l'on entend à la faveur de cette crise en Slovaquie nous rappelle un peu ce que l'on entend de la part des partis populistes dans la région à l'encontre des étrangers. Et en ce moment, nous, citoyens slovaques, nous avons davantage de droits ici en République tchèque que dans notre propre pays. Et c'est une drôle d'impression, c'est du jamais vu.
Les Tchèques aussi s'interrogent sur ce retour des frontières, comme l'historien Jan Richlik.
Quand ils ont fermé la frontière dans les années 70, je savais que c'était une décision faite par de mauvaises personnes, c'était des mauvaises décisions. Fermer les frontières à l'époque d'une pandémie, c'est une décision qui influence ma vie, mais je la comprends et je me rends compte que c'est nécessaire. Le parti de M. Babiš, Ano, ce n'est pas un parti pour lequel je voterai. De même, je n'ai pas voté pour le président Miloš Zeman, mais je suis d'accord avec le fait que les mesures prises par le gouvernement étaient nécessaires. Moi, j'ai peur d'une chose. On dit toujours que ce sont des mesures temporaires. Malheureusement, après, on voit que certains hommes politiques y prennent goût. Et la mesure qui devait être normalement temporaire dure et persiste plus longtemps. Comme d'ailleurs la présence temporaire de l'armée soviétique, la fermeture des frontières que moi j'ai vécues en 1969 était également temporaire. Et ça a duré presque 20 ans, jusqu'à la moitié des années 80, quand il y a eu un relâchement.
Cette tentation reste un sujet d'inquiétude dans une région si attentive à son histoire. Mais au-delà, c'est aussi vers les pays d'Europe occidentale que l'on regarde. Une Europe dont le comportement au début de la crise sanitaire n'a pas été exemplaire, regrette Jan Konvaninka.
Cela pourrait aller dans un sens ou dans l'autre, et je suis très préoccupé par la manière dont l'Europe a réagi. D'abord parce que la première décision a été de fermer les frontières. Ensuite, nous avons vu plusieurs pays restreindre les exportations de produits sanitaires vers les autres pays. Les intérêts individuels des nations européennes ont primé, sont passés avant la solidarité européenne. Et je crains que cette attitude ne demeure. Je redoute aussi l'attitude de certains hommes politiques qui pourraient en profiter pour dire que nous devons être autosuffisants, que l'Europe est juste un joli mot, mais qu'en temps de crise, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et si j'en ai peur, c'est parce que j'ai passé exactement la moitié de ma vie sous un régime communiste. Alors cette idée européenne, je la chéris profondément. Et je pense que l'Europe est particulièrement importante pour nous, petits États d'Europe centrale. Les frontières, vous savez, toutes ces barrières entre nous, ça me préoccupe grandement.
Škvíra ve dveřích, dnes mám zaracha, koukat na telku, dávám si bacha. Bosé nohy, linoleum, ať zeď modře bliká, silueta táty, pije pivo, máma vzliká. Pak promluví on ve tvářích důlky a já na tu dálku puštím titulky. Marně.
Coronavirus, les Tchèques montrés en exemple, un reportage de Marie-Pierre Véro avec Nicolas Mathias et à la réalisation Annie Bro.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Jacques Rupnik, directeur de recherche au CERI, spécialiste de l'Europe centrale et orientale, est l'invité de Grand Reportage. Alors, de votre point de vue, Jacques Rupnik, la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement tchèque a bien été exemplaire ?
Exemplaire, je ne sais pas, mais en tout cas, ils aiment à croire que c'était la réponse efficace. En tout cas, l'argument qui est utilisé, c'est « nous avons agi vite et fort, alors que d'autres ont tardé et ont eu des réponses ambivalentes ou laxistes ». Et donc, c'est un petit peu ça l'argument qui est développé et… pas totalement inexact, parce que c'est vrai qu'ils ont agi vite, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les frontières avant même que des foyers de contamination se développent sur leur territoire. Ils ont adopté toutes les normes, les règles du confinement qui ont été mentionnées dans votre reportage et qui ont été plutôt bien acceptées, bien en tout cas respectées par la population. Voilà, il y a peut-être des raisons aussi qui ne sont pas seulement dues aux mesures du gouvernement. Il y a maintenant beaucoup de spécialistes s'interrogent pourquoi pas seulement les Tchèques, mais l'Europe centrale s'en tire plutôt mieux. Et il y a ce que je viens de dire, la fermeture précoce des frontières, mais il y a aussi, par exemple, une hypothèse qui est avancée, le vaccin BCG, qui était très répandu avant 89, sous l'ancien régime, mais qui s'est poursuivi ensuite et qui a été largement abandonné en Occident. Et donc il y a maintenant l'hypothèse que le vaccin BCG aurait en quelque sorte un effet efficace contre le Covid. Bon, et puis je crois qu'il y a la raison qui est peut-être la plus importante, ou en tout cas qui a joué. Ils sont moins exposés aux mouvements de population et en particulier au trafic avec la Chine. Et ils ont très tôt pris des mesures de ce côté-là. Les Tchèques ont cessé de donner des visas aux Chinois dès la fin janvier, et dès le début février, tous les vols en provenance de Chine, tous passagers venant de Chine étaient interdits, ce qui n'était pas le cas en Europe occidentale à ce moment-là. Donc voilà, c'est un ensemble de mesures qui a peut-être contribué à ce résultat globalement positif, entre guillemets, face à l'épidémie.
Mais la population étant plutôt âgée et les systèmes sanitaires pas particulièrement performant, en tout cas de réputation, on aurait pu s'attendre à des résultats bien moins favorables.
Oui, mais c'est peut-être les deux sont liés, c'est-à-dire la population a respecté les règles, peut-être parce qu'elle n'avait pas à 100% confiance dans son système de santé. Donc c'est et alors relativement parlant, bien sûr que les dépenses de santé sont très inférieures en Europe centrale et en République tchèque par rapport à ce qu'elles sont en France, par exemple, mais la République tchèque, relativement parlant, c'est le pays qui dépense le plus pour la santé dans toute l'Europe centrale et orientale. Donc ils ont non seulement de très bons médecins, très bonne recherche médicale aussi, mais un système qui a tenu la route et qui a bien fonctionné. Mais je crois qu'il y a peut-être un lien à établir entre la faible confiance dans le système de santé et la discipline acceptée par les citoyens.
Une question de Marie-Pierre Véraud.
Oui, on se rend compte que peut-être les autres pays d'Europe centrale ont eu un peu les mêmes réflexes. Est-ce que l'héritage communiste a pu jouer dans la réponse à la pandémie, que ce soit de la part du gouvernement ou surtout de la population?
C'est toujours difficile d'attribuer ça au passé communiste. Alors je sais que c'est une explication tentante. Ils n'ont pas seulement observé la discipline sociale ou la distanciation sociale, comme on dit maintenant, mais ils ont accepté ça comme une discipline. Alors pourquoi sont-ils disciplinés? Ah, c'est parce qu'ils ont vécu sous le communisme. Je suis moyennement convaincu par cet argument. D'abord parce que le régime est quand même tombé il y a plus de 30 ans. Les gens qui ont véritablement été formés sous l'ancien régime, ben ils ont plus de 40 ans, donc ça concerne une faible, une partie seulement de la population. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est la facilité avec laquelle ils ont accepté la fermeture des frontières, parce que c'est quand même pour des pays et pour les Tchèques en particulier. Vous êtes pendant plus de 40 ans derrière le rideau de fer sans la possibilité de sortir. 89, c'était quand même, de ce point de vue-là, un acquis formidable. Quand on, dans tous les sondages, dans toutes les enquêtes d'opinion, quand on demande quel est l'acquis le plus important de 89, de la période de l'après-89, il y a beaucoup de désillusions sur tel ou tel aspect de la vie sociale ou politique ou économique, mais en tout cas, il y a un acquis qui est très très loin devant dans les sondages, c'était la liberté de mouvement, pouvoir sortir. Or là, quand le gouvernement décide tout de suite de fermeture des frontières, non seulement on peut pas rentrer, mais on peut pas sortir. Et la facilité avec laquelle ça a été accepté m'étonne. Et la peur a certainement joué. Les nouvelles qui venaient d'Italie et d'ailleurs ont joué leur rôle aussi. Faut se prémunir contre l'étranger. Et il y a peut-être eu quelque chose aussi. Alors ça, c'est un lien avec la crise précédente, qui était la crise migratoire. On a vu que dans la crise migratoire, ces pays avaient aussi très tôt accepté l'idée qu'il fallait fermer les frontières. Donc il y a le réflexe, dans la crise, on ne peut compter que sur ses propres moyens, sur l'État-nation, et le premier réflexe, c'est de se protéger en fermant les frontières. Bon, je crois qu'ils sont assez impatients de les rouvrir maintenant.
Est-ce que l'épidémie de Covid-19 a donné l'occasion à un discours anti-étranger de s'exprimer encore plus qu'avant? Je pense notamment aux Slovaques qui étaient interrogés par Marie-Pierre Véraud dans le reportage.
Oui, il y a une méfiance qui s'exprime vis-à-vis de l'étranger, associée à l'idée donc qu'il faut fermer la frontière pour se protéger puisque le virus arrive porté par des étrangers avec ou sans guillemets. Et il y a des pays où ça a été vraiment explicite. Orban, en Hongrie, au début de la pandémie, a essayé d'associer l'origine de la pandémie en Hongrie à la présence d'étudiants iraniens. Et ça n'a pas duré longtemps, mais enfin, pendant quelques temps, on a essayé de dire véritablement, faire un lien entre immigration et l'épidémie. Ensuite, ça n'a pas été le cas, mais la tentation était là. Et plus généralement, disons, c'est quand on ferme les frontières et quand on cherche à se protéger comme ça et le confinement, bien sûr, ça crée la méfiance vis-à-vis des autres en général. Et alors l'autre étranger, est peut-être encore plus visé.
Marie-Pierre Véraud.
Et donc cette question des frontières, on voit bien qu'elle se rouvre là progressivement. Alors avec la Croatie aujourd'hui, progressivement avec l'Autriche et l'Allemagne aussi, avec des contrôles qui sont plus aléatoires, avec la Slovaquie bien sûr, pays voisin, pays frère s'il en est, comme si la carte de l'Europe se redessinait, qu'on avait des petites régions d'Europe qui se rouvraient.
Oui, c'est vrai que le Covid a en quelque sorte, ou les réponses au Covid ont reflété certaines spécificités régionales. On le voit pour les pays du Sud qui ont été les plus touchés, Italie, Espagne, France. On le voit pour les pays scandinaves, même si la Suède l'a fait cavalier seul. Mais pour l'Europe centrale, c'est sûr qu'ils ont eu le sentiment d'avoir adopté, avec des variantes locales bien sûr, mais des mesures similaires, au moins sur ce qui est le plan sanitaire. Il en va différemment sur le plan politique. Mais du coup, ils ont été les premiers à fermer les frontières. Ils sont les premiers soucieux de les rouvrir, au moins entre eux. Et quand je dis entre eux, ça inclut l'Autriche. En ce sens-là, l'Autriche retrouve son rôle centre-européen, peu touché par la pandémie, en tout cas bien géré la crise, et elle est en train de rouvrir la frontière avec ses voisins, en tout cas c'est ce qu'elle souhaite faire dans les prochains jours. Et ça, c'est très important bien sûr pour les Tchèques, c'est leur voisin immédiat, mais on retrouve un peu l'espace de l'ancien empire austro-hongrois.
Sur le plan politique, Jacques Rupnik, la pandémie a été un bon prétexte pour renforcer les pouvoirs de l'exécutif?
Alors c'est la tentation immédiate, état d'exception, état d'urgence et de l'urgence sanitaire, bien entendu. On a la tentation, dans certains cas, d'exploiter la crise pour renforcer le pouvoir exécutif. C'est ce qu'on a vu d'abord en Hongrie, avec la loi qui a été adoptée par Viktor Orban à la fin mars. Et donc c'est une loi qui lui donnait quasiment les pleins pouvoirs, et surtout pour une durée illimitée. Il n'y avait pas de précision dans la loi qui a été adoptée sur la durée, et c'est ce qui a inquiété le plus, je crois, à l'extérieur. En République tchèque, il y avait un état d'urgence sanitaire, mais qui était limité dans le temps et qui devait être renouvelé par le Parlement. Et d'ailleurs, ça n'allait pas de soi. Le Parlement a ensuite mis des contraintes au prolongement de cet état d'exception. Mais c'est une tentation très forte. On a vu en Pologne, par exemple, que le gouvernement voulait, en pleine pandémie, donc on était dans le confinement, faire des élections présidentielles par correspondance. Imaginez un pays de près de 40 millions où on fait une élection. Bon, finalement, il a dû reculer, Kaczynski a dû reculer, et l'élection est reportée à la fin du mois de juin. Donc voilà, l'épidémie profite à ceux qui veulent un pouvoir fort. Dans le cas tchèque, c'est sûr que ça a profité au Premier ministre, Monsieur Babiš. Il y a un an, je rappelle, Monsieur Babiš était très fortement contesté. C'est un entrepreneur qui profite largement des fonds européens pour l'agriculture. Il a une grande entreprise qui s'appelle Agrofert, qu'il ne possède plus formellement, dont il s'est détaché pour exercer ses fonctions politiques, mais personne n'est dupe. Et bref, contestation sur le mauvais usage de ces fonds, détournement de ces fonds. Un quart de million de Tchèques étaient à Prague, dans la rue, dans une ville d'un million d'habitants. Ça fait quand même beaucoup de monde pour demander sa démission. Ça, c'était il y a un an. Un an après, il sort de cette crise renforcée. Pendant la crise, il avait plus de 80% de gens qui faisaient confiance aux mesures qu'il avait prises. Et là, dans le dernier sondage, il a plus d'un tiers des électeurs qui voteraient pour son parti, et les autres sont loin, loin derrière. Donc il a au moins trois fois le score de la plupart des autres partis, réduits au silence, et il se réveille maintenant lentement. Donc lui, il a clairement profité du Covid, de l'effet Covid. Évidemment, il y a une grande inquiétude, non seulement côté tchèque, mais dans toute l'Europe centrale, sur les effets économiques après.
Parce que ces pays dépendent énormément des exportations.
Ils sont très inquiets sur le plan économique, parce que ce sont des petits pays dont l'économie est très ouverte et très dépendante du commerce avec l'Union européenne, et en particulier l'Allemagne. C'est des pays, pour donner un ordre de grandeur, qui font trois quarts, 80% de leur commerce avec l'Union européenne, et la moitié de cela avec l'Allemagne. Donc, bien entendu, quand ils voient les prévisions récession en Europe, moins 10%, ils savent qu'ils seront bien entendu touché et très très durement touché. Et le pays qui fera la différence, ben, ça sera l'Allemagne et l'Autriche aussi, car voilà, c'est les deux pays voisins, mais dont l'économie tire en quelque sorte l'économie tchèque, mais aussi slovaque et ou hongroise. Donc voilà, grande inquiétude et donc aussi préoccupation sur l'usage du fonds européen là qui a été créé à l'initiative du président Macron et de la chancelière allemande, avec les 500 milliards d'euros plus les 250 milliards que donne l'Union européenne. Et pourquoi sont-ils préoccupés? Mais parce que le fonds est censé cibler les pays qui sont les plus durement touchés par l'épidémie, c'est-à-dire les pays du sud de l'Europe. Or, eux étaient habitués au cours de la dernière décennie à une grande générosité budgétaire dans les fonds structurels européens. Ils ont été grands bénéficiaires. Ça représentait pour la plupart de ces pays d'Europe centrale entre 3 et 4% de leur PNB. D'où les réticences exprimées par le Premier ministre tchèque, Monsieur Babiš, sur et le montant du fonds et sur la façon dont il serait redistribué. Voilà. Donc, mais tout ça, ça fait partie de la grande inquiétude. Si vous avez quelqu'un comme Monsieur Babiš qui n'est pas, disons, un régime de type Orban, ni Kaczynski, c'est pas un idéologue. Lui n'a pas, il ne propose pas la démocratie illibérale ou des choses comme ça. Mais lui, son idéologie, c'est celle d'un entrepreneur. Et il a été un entrepreneur qui a bien réussi dans les affaires. Et en gros, il veut, comme il le dit lui-même, gérer l'État comme une entreprise. Voilà. Et donc, quand il voit que l'économie européenne plonge dans une récession dont on mesure pas encore pleinement l'ampleur, bien entendu, il est inquiet parce qu'il sait que ses résultats politiques sont très liés à la performance économique du pays.
Donc, une fois de plus, au sein de l'Union européenne, l'Europe centrale a peur de ne pas être tellement entendue.
L'Europe centrale a peur, effectivement, de voir un grand effort budgétaire européen, puisque là, il s'agit d'un effort collectif de l'Union européenne, et non plus seulement de prêts individuels de chacun des pays, de voir cet effort redirigé vers les pays du sud de l'Europe qui ont été le plus atteints par le corona.
Mais donc là, il y a une préoccupation donc de ces pays d'Europe centrale, alors que ces pays sont assez critiques vis-à-vis des pays du sud de l'Europe dont ils jugent la gestion de la crise assez désastreuse.
Disons, ils ne se permettent pas de critiques ouvertes. C'est, disons, ce que l'on lit dans la presse où il y a à la fois une certaine autosatisfaction par rapport à la façon dont eux ont géré la crise. Donc ça, c'est une chose. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a des auteurs à l'étranger aussi, des spécialistes qui ont loué la façon dont l'Europe centrale a géré la crise. Donc ils se flattent donc d'avoir bien répondu à la crise. Et évidemment, le contraste est tentant avec les pays du Sud qui, non seulement sur le plan économique, ne savent pas gérer leurs finances, qui, dans la crise migratoire, là aussi s'étaient montrés défaillants, et qui, une fois de plus, ça confirme une sorte de stéréotype qu'ils ont vis-à-vis des pays du Sud qui auraient moins bien géré la crise. Bon, et s'il y a un pays qui, à leurs yeux, se sort bien de la crise et qui reste une référence, c'est l'Allemagne. Et je crois que, alors c'est là qu'est la chose intéressante. Il se méfie traditionnellement du couple franco-allemand dans le leadership européen, parce qu'il trouve que ça impose une sorte de d'hégémonie, parce qu'évidemment, quand la France et l'Allemagne se mettent d'accord, bah, ça pèse. Et ils ont le sentiment que eux, petits pays d'Europe centrale, sont du coup négligés. Eh bien là, ils voient que, tardivement peut-être, mais que l'Europe est là, et que donc le couple franco-allemand a réussi là à remettre l'Europe dans une position, disons, stratégique, décisive pour l'Europe, et donc y compris pour eux. Et donc je crois que politiquement, c'est quelque chose là aussi qui laissera des traces.
Merci Jacques Rupnik. Coronavirus, les Tchèques montrés en exemple. Le grand reportage de cette semaine était signé Marie-Pierre Véraud avec Nicolas Mathias. Réalisation Annie Bro, à la technique Jacques Azubert. Merci à l'équipe de la documentation d'actualité de Radio France. Et vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.